VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manila Kiza à la présentation de cette édition du jeudi 27 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Mali, les militaires libèrent les dirigeants arrêtés et reprennent les commandes du pays. Macron reconnaît les responsabilités de la France dans le génocide du Rwanda. En RDC, des experts au sommet du volcan Nyiragongo pour évaluer les risques. L'ambassadeur de France en Israël convoqué après des propos de Le Drian, chef de la diplomatie française. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Mali, les militaires ont libéré le président et le premier ministre de transition, mais semblent s'éloigner de la reprise immédiate d'une transition civile dirigée par des civils. Le colonel Goïta, instigateur de ce coup de force, a dit à la mission internationale dépêchée mardi à Bamako qu'il compte prendre la tête de la transition et nommer un premier ministre. De Bamako, les précisions de Mohamed Danyoko.
Très tard dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 mai, l'ex-président de la transition Bandaou et son ex-premier ministre Mokhtar Wane ont été libérés et ont pu regagner leur domicile. Si l'on ignore pour le moment le sort des gradés et personnalités arrêtés en même temps qu'eux, on peut dire que cette libération a été obtenue grâce à la pression de la communauté internationale et des acteurs politiques et de la société civile malienne. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, qui a rencontré Assimi Goïta à deux reprises, est toujours dans la capitale malienne pour discuter avec les forces vives de la nation et définir les contours pour la suite de la transition. Si l'atmosphère est calme à Bamako, il n'en demeure pas moins que chaque citoyen est aujourd'hui préoccupé par cette nouvelle période qui s'ouvre et qui est qualifiée ici d'incertaine. Mohamed Danyoko, VOA. Bamako.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné à l'unanimité l'éviction du président et du premier ministre malien, sans toutefois parler de coup de force, ni envisager de mesures contraignantes. Toutefois, la CEDEAO, la France et les États-Unis ont brandi la menace de sanctions. Le département d'État a annoncé la suspension de l'assistance aux forces de sécurité et de défense maliennes. Le porte-parole Ned Price a précisé que Washington étudierait des mesures ciblées contre les responsables politiques et militaires qui ont entravé la transition civile vers une gouvernance démocratique. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a nommé jeudi un nouveau général à la tête de l'armée. La nomination du major général Farouk Yahya doit cependant encore être entérinée par l'Assemblée nationale. Il commandait la première division de l'armée nigériane ainsi que l'opération militaire contre la rébellion djihadiste dans le nord-est du pays. Cette annonce intervient 6 jours après le décès dans le crash d'un avion avec 10 autres officiers du lieutenant général Ibrahim Atayrou, nommé le 26 janvier. Toujours au Nigeria, les sauveteurs ont sorti jeudi une trentaine de corps du fleuve Niger dans le nord-ouest du pays suite au naufrage la veille d'un bateau. L'embarcation avait à son bord plus de 180 passagers. La plupart sont portés disparus et présumés morts noyés. Les survivants et les autorités locales affirmaient que seuls 20 passagers ont été retrouvés vivants mercredi. Le nombre de morts pourrait donc atteindre 160. Le président français Emmanuel Macron, en visite au Rwanda, a reconnu ce jeudi les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis en 1994. Il a exprimé le souhait que les Rwandais puissent un jour pardonner aux autorités françaises de n'avoir pas su empêcher le massacre de centaines de milliers de personnes par les milices Hutus. Les précisions avec Thierry Kaoré.
Dans un discours très attendu au mémorial de Gisozi à Kigali, le président français Emmanuel Macron a voulu tourner la page d'une relation douloureuse entre les deux pays.
La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité.
Lors d'une conférence de presse conjointe, le président rwandais Paul Kagame a, pour sa part, salué le discours de son homologue français.
This was a powerful speech.
C'était un discours puissant avec une signification particulière pour ce qui se passe actuellement et qui résonnera bien au-delà du Rwanda. Ces paroles étaient quelque chose de plus précieux que des excuses.
Le génocide rwandais avait fait quelque 800 000 morts pour la plupart des Tutsis en 1994. Cette visite historique du président français à Kigali vise à tourner la page sur des décennies de tensions diplomatiques entre les deux pays.
En 2010, Nicolas Sarkozy, le seul président français à s'être rendu à Kigali depuis le génocide, avait déjà reconnu de graves erreurs et une forme d'aveuglement des autorités françaises ayant eu des conséquences absolument dramatiques. Emmanuel Macron et Paul Kagame ont promis de renouer des relations puissantes et irréversibles entre les deux pays. Dans le Nord Kivu, en RDC, des dizaines de milliers de personnes quittent la ville de Goma sur ordre d'évacuation face au risque d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Des kilomètres d'embouteillage bloqués ce jeudi, la route reliant Sake dans le territoire de Masisi. Nathalie Barge.
De nombreux véhicules, parmi lesquels des bus surchargés, tentaient d'avancer sur la route principale de l'ouest de Goma. Des policiers et militaires essayaient de désengorger le trafic sans grand succès. L'embouteillage s'est étendu sur une vingtaine de kilomètres. Des milliers de piétons se déplaçaient avec leurs bagages sur le bas-côté de la route. Des volcanologues se sont rendus au sommet du volcan pour évaluer les risques, a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Les autorités ont ordonné l'évacuation progressive de 10 quartiers de Goma sur le parcours découlé de la va-t-il indiquer, précisant qu'un dispositif a été mis en place pour orienter les déplacés vers des lieux plus sécurisés. La route de Rutshuru a été réhabilitée dans l'urgence après avoir été coupée par la lave et le gouvernement est en contact avec le Rwanda voisin, ajouté M. Muyaya. La police et l'armée ont été déployées pour sécuriser Goma, la capitale du Nord Kivu, étant déserté par la moitié de ses habitants.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les sénateurs républicains ont soumis jeudi à Joe Biden leur contre-proposition pour un plan d'infrastructure qu'ils ont élevé à près de 1 000 milliards de dollars, un montant loin de celui proposé par le président américain. De profonds désaccords persistent aussi sur ses sources de financement. La Maison-Blanche avait raboté le 21 mai son plan d'infrastructure de 600 milliards de dollars à 1 700 milliards pour tenter de rallier les sénateurs républicains. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé jeudi à l'unanimité le mandat de la mission de l'ONU en Irak en l'élargissant à l'observation des élections législatives prévues le 10 octobre. Accédant ainsi en partie à une demande de Bagdad. La mission onusienne baptisée Manui est prolongée jusqu'au 27 mai 2022, indique la résolution rédigée par les États-Unis. Le ministère israélien des Affaires étrangères a convoqué jeudi l'ambassadeur de France en Israël. C'est à la suite de propos tenus par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Le point avec Rosine Mounezer.
Si d'aventure on avait une autre solution que la solution à deux États, on aurait alors les ingrédients d'un apartheid qui durerait longtemps. Le risque d'apartheid est fort si on continuait à aller dans une logique à un État ou du statu quo. Même le statu quo produit cela. Tels sont les propos que M. Le Drian avait tenus dimanche au grand jury RTL, Le Figaro et LCI. Lors d'un entretien ce jeudi au ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem, le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi a fait savoir à l'ambassadeur de France en Israël, Eric Danon, que les propos du ministre français étaient inacceptables, sans fondement et déconnectés de la réalité. Dans un communiqué, Lior Eat, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, a souligné qu'Israël attend de ses amis qu'ils ne s'expriment pas de façon irresponsable afin de ne pas renforcer les extrémistes et les activités anti-israéliennes et antisémites à l'étranger.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique. Retrouvons John Lyndon pour la Minute Éco.
L'État du Burkina Faso a levé mercredi un montant de plus de 87 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 3, 7 et 10 ans organisée en partenariat avec l'agence UMOI, titre basé à Dakar. Cette émission d'obligation, souligne Financial Afrique, permettra d'assurer la couverture des besoins des financements du budget de l'État dans le cadre de ses plans de relance économique. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Togo annonce avoir infligé une amende de près de 600 millions de francs CFA à Move Africa Togo, filiale de Maroc Telecom, pour non-respect de l'obligation de disponibilité permanente, continue et régulière des services de communication électronique mobile. À en croire Financial Afrique, cette amende, qui correspond à 1% de son chiffre d'affaires certifié 2019, doit être versée dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 20 millions de francs CFA par jour de retard. En février 2021, Togocom, filiale du groupe malgache Asian, avait aussi écopé d'une amende d'un milliard de francs CFA pour différenciation tarifaire.
Nous passons directement à votre page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Suite et fin des matchs des quarts de finale de la Basketball Africa League ce jeudi à Kigali au Rwanda. Le dernier face-à-face de ces quarts oppose les Mozambicains de Ferroviario de Maputo aux hôtes rwandais de Patriotes. La première affiche des demi-finales est connue. Elle opposera les Égyptiens du Zamalek aux Angolais de Petro de Luanda. En quart de finale hier, en effet, le Zamalek s'est largement imposé devant les Camerounais de FAP 82-53, tandis que, dans un match plus serré, les Angolais de Petro de Luanda ont eu le dernier mot face aux Marocains de l'AS Salé, battus 79-72. Les demi-finales se joueront ce samedi 29 mai et la finale le dimanche 30 mai. Et comme d'habitude, vous pouvez tout suivre sur la balle en écoutant les matchs en direct sur les stations locales partenaires de VOA et sur voanews.com. Football, le jury disciplinaire de la CAF déboute la RDC dans l'affaire de la double identité du joueur Gaylord Nkanga qui évolue avec le Gabon de Kinshasa, la correspondance de Valdo Simon Yamba.
Plainte rejetée purement et simplement par les jurys disciplinaires de la CAF, la RDC n'a pas eu gain de cause dans l'affaire qu'il opposait au Gabon concernant la dénonciation de la double identité du Gabonais Gaylord Nkanga dit Kiaku Kiaku. Pour la RDC, la qualification à la CAN Cameroun 2021 reste bel et bien gabonaise. Après plus d'un report pour insuffisance de preuves, à en croire les jurys disciplinaires de la CAF, la Fédération Congolaise de Football Association et la FEGAFOOT ont finalement été en confrontation par visioconférence et c'est à l'issue de celle-ci que la RDC a été notifiée du rejet de sa plainte. Le jury disciplinaire de la CAF a motivé sa décision par le fait que c'est depuis 2008 que le joueur est enregistré dans le système CMS de la CAF avec la nationalité gabonaise et a pris part à toutes les compétitions de la CAF en club, tout comme avec la sélection nationale gabonaise. Une décision qui n'enchante pas les Congolais puisque estime-t-il la nationalité gabonaise d'Nkanga n'est pas authentique, ce qui peut sans le doute conduire la FECOFA à aller en appel au niveau du TAS puisque l'option est reprise dans la correspondance lui adressée par les jurys disciplinaires de la CAF. Kinshasa, Valdo Simon Yamba, VOA Afrique.
En Espagne, Zinedine Zidane dit au revoir au Real Madrid. Bagassi Koura.
Oui, le Real Madrid annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son mandat actuel d'entraîneur de notre club, indique la Maison Blanche dans un communiqué. L'entraîneur français interrompt ainsi l'histoire d'amour qui les liait au club espagnol qui devait se poursuivre jusqu'en juin 2022. Après avoir raflé 9 trophées en 2 ans et demi lors de son premier passage sur le banc du Real Madrid entre 2016 et 2018, Zidane a été rappelé à la rescousse en mars 2019 par le président Florentino Pérez pour remplacer Santiago Solari. À l'été 2020, le Real parvient à arracher son 34e titre en Liga devant le Barça, mais il déçoit en Ligue des Champions. Cette année, il n'a remporté aucun titre pour le Real, mais a hissé les merengues jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions où la Maison Blanche a cédé face à Chelsea.
Merci, Bagassi.
Merci, Yacouba, pour l'espoir.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le coup de force de l'armée au Mali a remis sur le devant de la scène le colonel Assimi Goïta, discret vice-président de la transition, mais véritable homme fort à Bamako depuis qu'il a dirigé en août 2020 le putsch qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka. Quelle perspective dans la crise au Mali? Jean-Roger Bion a joint à Bamako l'analyste Étienne Fakaba Sissoko. Il soutient la position de la communauté internationale et s'en justifie.
On ne peut pas comprendre que un président de la France qui a été choisi par les mêmes militaires qui ont mis un collège, qui a choisi de façon consensuelle, sans pression aucune, un président de la transition, donc un président qui était au préalable acquis à leur cause, et que ce soit les mêmes militaires qui reviennent quelques mois après pour violer la charte de la transition, pour violer la constitution qui est en vigueur et s'accaparer du pouvoir. D'autant plus que le vice-président aujourd'hui, qui est devenu le président de la transition, si on s'en tient au communiqué qui a été vu à la télévision nationale, n'a aucune qualité à conduire la transition. Parce que la charte, dans son article 7, est très claire là-dessus. Le vice-président ne peut en aucun cas remplacer le président de la transition.
Monsieur Fakaba, la communauté internationale et la junte au pouvoir à Bamako se retrouvent donc dos à dos dans leur vue. Y a-t-il un point de rencontre possible en termes de sortie de crise?
Je suis dans la posture aujourd'hui partagée par la population malienne, une position partagée par la communauté internationale qui souhaite aujourd'hui qu'on revienne à une transition et que finalement, que les autorités de la transition puissent être reprise en main par FDV et conduite jusqu'à son terme, à savoir l'organisation d'élections transparentes qui puisse finalement mettre à la tête du pays un président démocratiquement élu. Parce que le risque aujourd'hui qui pèse sur la transition et qui pèse même sur le président qui pourra être mis en place, c'est que si d'aventure on va aux élections dans ces conditions-là, avec ce épée de Damoclès des militaires sur la tête de la classe politique, sur la tête de la société civile, sur la tête du pays globalement, le risque c'est qu'entre les deux tours, si les militaires se rendent compte que la balance penche du côté des candidats qui n'est pas de leur, qui sortent finalement des casernes pour récupérer une fois de plus le pouvoir comme on l'a vu dans des pays voisins comme la Guinée-Bissau.
Est-ce qu'on pourrait dire que la population civile soutient les militaires?
Il y a une partie de la population, effectivement, qui soutient les militaires. De toute façon, le rapport de force est aujourd'hui que la transition ne peut pas se faire sans les militaires. Cela, il ne faut pas se leurrer dessus. Moi, de ce que je sais, de ce qui est indéniable aujourd'hui, le poids de la communauté internationale qui est présente ici au Mali, c'est la MINUSMA, c'est l'Union européenne, c'est la France à travers Barkhane. Et ce sont tous les pays nordiques aujourd'hui qui investissent des milliards dans la sécurisation de notre pays. Et que la voix de ces partenaires-là va être très importante.
Docteur Étienne Fakaba Sissoko, enseignant-chercheur à la faculté d'économie de l'Université du Mali à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Une nouvelle page s'ouvre dans les relations entre Kigali et Paris avec la visite du président français Emmanuel Macron au Rwanda. Les deux chefs d'État ont promis de renouer des relations puissantes et irréversibles entre leurs deux pays. Pour une analyse sur ce rapprochement, Abdulrahman Dia a joint à Kigali Jean-Paul Kimonyo, chercheur et ancien conseiller du président Paul Kagame.
À la différence de la première tentative de rapprochement faite par Sarkozy, je pense que celle-ci est plus profonde. D'une part, elle a pris un peu plus de temps, elle a impliqué un certain nombre de faits ou d'actions avant même l'accélération de ce processus de rapprochement en tant que tel. Et d'autre part aussi, cette fois-ci, je pense que ce soit du côté du Rwanda ou de la France, il y a une volonté d'inscrire ce rapprochement dans les institutions. Que ce ne soit pas seulement un rapprochement du fait des deux chefs d'État, mais que ce soit un rapprochement qui rentre dans le corps des institutions de l'un et de l'autre pays. Un exemple très clair par rapport à cette question-là, c'est la nomination qui a été annoncée par le président Macron de l'ambassadeur. Or, ça faisait plus de 6 ans qu'il n'y avait pas d'ambassadeur français au Rwanda, et donc la nomination de l'ambassadeur français au Rwanda est vraiment le point d'aboutissement de ce processus de rapprochement.
D'accord. Alors, le président français reconnaît la responsabilité de la France dans le génocide, mais l'association des rescapés Ibuka s'attendait à des excuses faites de façon plus marquée. Vous pensez que le président Macron devrait s'excuser carrément?
Bon, il y a différents avis par rapport à la question des excuses. Il y en a qui pensent que les excuses ne signifient pas grand-chose. Mais maintenant, durant son discours au mémorial de génocide des Tutsis, ce matin, il a fait un discours très fort. Il a fait un discours très fort, et dans ce discours-là, il a notamment, de façon, c'est vrai, subtile, mais aussi très forte, il a demandé pardon aux rescapés du génocide. De façon indirecte, certes, mais l'intention était très claire. Et la signification du paragraphe en question était très claire, donc une demande de pardon aux rescapés du génocide des Tutsis.
On parle beaucoup des aspects politiques, diplomatiques et même culturels dans les relations à venir entre les deux pays, mais il y a aussi l'aspect économique avec le Rwanda qui est devenu un peu un hub dans la région, mais aussi un modèle de développement pour le continent, sur le continent.
Oui, tout à fait. Hein. Mais ça va dans les deux sens. Hein. En même temps, c'est vrai que le Rwanda est demandeur d'investissement étranger, mais aussi la France et notamment les compagnies françaises font un grand effort de diversification aujourd'hui. En dehors du prêt francophone habituel, les entreprises françaises sont très agressives dans d'autres parties de l'Afrique francophone. Et je pense que en fait, il y a deux volontés ou alors deux besoins qui se rencontrent parfaitement.
Jean-Paul Kimonyo, joint à Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, un ordre d'évacuation de la ville de Goma a été lancé à l'aube par les autorités face au risque d'une nouvelle éruption. D'immenses embouteillages ont bloqué les sorties de la ville. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibourg a joint le coordinateur de la protection civile, Joseph Makundi.
Tous les plans d'évacuation, en tenant compte des scénarios de 2002, un certain nombre de quartiers qui sont à zone rouge, mais du coup Goma dans son ensemble, est parsemé par plusieurs fissures volcaniques, ce qui fait que les anciennes fissures volcaniques se sont ouvertes et des maisons sont fissurées, certaines maisons ont été écroulées, on a vu des blessés. Ce qui a fait que ce risque qui s'augmente à l'éruption volcanique a fait que nous puissions dire non, on a assez. Voyons comment amener la population calmement, doucement, bien coordonnée vers les zones de refuge.
Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées?
Oui, énormément de difficultés qu'on a commises parce que lorsqu'on élaborait la plate qu'on déjà avec la population, nous nous sommes dit avec la population qu'on ne pourra pas se déplacer avec les véhicules. On ne pourra pas se déplacer avec les motos. Goma dispose de plus de 50 000 véhicules, plus de 40 000 motos. Sans augmenter les motos, les véhicules de la MONUSCO, de l'armée, l'embouteillage était très sérieux. On ne savait pas ni avancer ni reculer dans certains endroits. La seconde difficulté à laquelle nous nous sommes butés, c'est que les zones d'accueil où on a évacué la population, ne sont pas préparés. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas les logements, il n'y a pas, c'est hier qu'on discutait avec les humanitaires, qu'est-ce qu'on peut faire. Nous sommes en période de la COVID-19 au niveau de la province du Nord Kivu. Le nombre de cas de la COVID-19 augmente. On s'est déplacé avec qui est contact de cette maladie, est-ce qu'encore le pic de la COVID-19 ne va pas augmenter au Nord Kivu? L'ensemble de ces paramètres demande à ce que je puisse dire « Ah, nous sommes en situation difficile, je recours au gouvernement central, je recours à la communauté internationale pour qu'on puisse avoir un appui urgent afin de contenir cette crise qui vient de se créer au niveau de la province. »
Joseph Makundi, le coordonnateur provincial de la protection civile au Nord Kivu.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'éruption soudaine du Nyiragongo et la gestion des catastrophes naturelles en Afrique. Après un sommet de près de 20 ans, le volcan qui surplombe l'agglomération de Goma et le lac Kivu a craché sa lave sur la ville et provoqué plusieurs secousses sismiques causant des morts, d'importants dégâts matériels et une énorme psychose auprès de la population. Cette éruption du volcan Nyiragongo était-elle prévisible? Les gouvernements en Afrique consacrent-ils assez de moyens à la surveillance, la prévention et la gestion des catastrophes? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
L'Afrique joue la première édition de la Basketball Africa League qui se tient actuellement au Rwanda. Cette compétition nous offre l'occasion de revenir sur la situation du basketball dans plusieurs pays sur le continent. Aujourd'hui, nous faisons escale au Togo grâce à notre correspondante, Kai Lawson.
Considéré au Togo comme la deuxième discipline la plus pratiquée après le football, le basketball intéresse toujours les jeunes, affirme la Fédération togolaise de basketball. Mais les moyens font défaut à l'instance qui dirige le basketball togolais pour organiser des compétitions. Bivaina Gungu, président de la Fédération togolaise de basketball.
Le basketball attire beaucoup la jeunesse chez nous. On sent la motivation, on sent l'engagement, on sent le dévouement des jeunes. Mais chez nous au Togo, pour l'instant, nous n'avons pas encore une salle. Ce qui nous limite un peu dans le choix des compétitions à abriter. Quand on doit organiser une compétition, ce n'est jamais facile. Mais nous arrivons à organiser quelques-unes.
Le basketball pourrait susciter plus de vocations si certaines conditions sont réunies, estime Ginette Bayadekambi, ancienne capitaine de l'équipe féminine de basketball du Togo.
Notre basketball, comme les autres sports de main, se voit encore plus négligé. Au fil des années, la discipline suscite de moins en moins des vocations. Au vu de la faible importance qui est accordée, les infrastructures inadéquates, je dirais également que les championnats scolaires qui ont été suspendus ne favorisent pas cette vocation. Alors que nous sommes arrivés au basket par ce championnat scolaire-là.
Compte tenu de la morosité actuelle du basketball togolais, Eric Johnson, joueur de l'étoile filante de Lomé, ne mise pas que sur la balle orange.
Ici, nous avons un petit problème avec les sports de main. Donc, moi, j'ai préféré continuer mes études à côté. J'ai essayé d'avoir tous mes diplômes et de jouer aussi au basket. Si l'opportunité de basket se présente, pourquoi pas? Si l'opportunité de diplôme se présente aussi, pourquoi pas?
Faute d'une réelle académie de basketball dans le pays, des centres encadrent de jeunes et enfants désireux de pratiquer le basketball. Mettre en place des pépinières coïncide avec l'ambition de la Fédération togolaise de basketball qui veut porter haut le basket togolais et pourquoi pas participer prochainement à la Basketball African League. Nous retrouvons le président de la fédération, Bivaina Gungu.
Notre ambition, c'est de pouvoir amener les équipes au plus haut niveau possible, organiser les choses pour que notre basket commence par s'élever. J'avoue que le basketball aujourd'hui a évolué. Nous souhaitons que nos joueurs et nos joueurs s'adapter et de pouvoir sortir, se mesurer aux autres nations et aux autres clubs des autres pays. Qu'on puisse avoir un club togolais à la BL parmi les 12 pays qui vont participer à la phase finale de la Basketball Africa League.
Kailasan, Lomé, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Manuakiza était à la présentation. Ici va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée. à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.